L'œil de Lucie, un roman de Marielle Stamm, paru aux éditions de l'Air. Première partie, jeu d'ombre. Car les chemins du jour côtoient ceux de la nuit. Homère, l'Odyssée, 10-86.
C'était un joujou de pacotille. Le père l'avait acheté en sortant du bureau à un étalage en plein vent. 7 petits morceaux de celluloïde de couleurs différentes, enroulés comme les coques d'un ruban de fête et retenus par un simple rivet de fer à une tige en bois. Le père l'avait fiché dans le gâteau où il trônait, telle une fleur géante, au milieu des 4 bougies. La petite n'avait pas eu un regard pour les autres présents. Un cylindre entouré de papier doré, le cadeau de maman. Une pile de livres couronnée d'un nœud jaune, celui de bonne maman. Et un paquet enveloppé par Agathe dans du papier journal. Chacune d'entre elles, sa sœur surtout, avait espéré que Lucie choisirait le sien en premier. Mais la fillette avait immédiatement arraché la fleur de son support chocolaté, laissant un cratère béant s'ouvrir dans la masse crémeuse. « C'est un tourniquet !» avait expliqué le père, qui n'était pas très bavard. « Tiens-le bien devant toi, cours très vite et regarde bien ce qui se passe. » Maman ne faisait pas attention, comme d'habitude. Sa pensée était ailleurs. Agathe en profita pour glisser un index gourmand à l'intérieur de la brèche ouverte dans le gâteau. Le mois de mai tirait à sa fin. La chaleur était déjà vive. Et les premières cigales crissaient dans le pain sous lequel on avait dressé la table du goûter d'anniversaire. « Nous n'aurions pas dû l'installer en dessous. Il y fait déjà trop chaud en cette saison, » épiloguait bonne maman. Chaque recoin du jardin avait sa dénomination. En dessous était une allée abritée en contrebas du reste du jardin, d'où son nom. Il y avait sous le cèdre, la terrasse, le grand pré et enfin le poste à feu, vestige anachronique d'une époque où de rares chasseurs tiraient sur la grive et le merle. Mère et fille n'eurent pas le temps de discuter plus longtemps des avantages et des mérites climatiques respectifs de la terrasse et d'en dessous pour y prendre le goûter. Des hurlements les avaient fait sursauter. Seul le père avait suivi toute la scène, bien trop rapide pour qu'il puisse en prévenir l'issue. Brandissant sa rosace, la fillette s'était élancée, fascinée par l'envol des hélices qui nappaient le ciel d'un arc-en-ciel brillant. Transportée par ce spectacle, elle avait heurté la marche au bout de l'allée et gisait maintenant sur le dos, les yeux révulsés. Son œil droit était caché sous une mèche hérissée d'aiguilles de pin. Une mer laiteuse et hostile baignait l'œil gauche. Un mince croissant noir fuyait à l'angle extérieur tout en haut, seul signal donné par l'iris disparu, tel le négatif d'une lune obscurcie par des nuages. À la hauteur du genou, le sang s'écoulait d'une entaille, rougissant les chaussettes blanches. L'enfant raidi repoussait les paires de bras qui se démenaient, impuissantes, au-dessus d'elle. Elle criait de plus en plus fort, et entre les hoquets, on distinguait 3 syllabes répétées inlassablement. « L'araignée ! L'araignée !» On secoua la robe, on enleva les sandales, non sans recevoir de multiples coups de pied, mais l'araignée resta introuvable. Dès que l'on faisait mine de la toucher, la petite redoublait ses cris. Ce n'était pas tant ce vacarme qui devenait insupportable que cet œil disparu au milieu du visage ruisselant de larmes, avec, comme un ultime adieu, le fantôme d'Iris. Debout près de la table du goûter, Agathe lissait pensivement du bout du doigt les pales du tourniquet, encore glorieux quelques instants auparavant, et maintenant cabossé et couvert de poussière. Elle regardait ses parents et sa grand-mère s'agiter en tous sens, sans prendre part au désarroi général. Le père tentait vainement d'éponger la blessure avec le bas de sa chemise, mais les braillements ayant redoublé, Il tenta de seconder maman et se mit à lui frotter maladroitement le dos, ce qui ne fit qu'augmenter l'énervement de cette dernière.
« Fais donc quelque chose pour que ça cesse »
dit-elle exaspérée.
« Que quoi cesse ?»
se demandait le père.
« Le flot de sang sur les mollets ?
Le délire hystérique de l'enfant ? Ou cette mer moutonneuse et opaque à la place de l'œil et de sa prunelle sombre ?» Alerté par les cris, Tobia, la chienne, avait pesamment quitté sa niche. Elle léchait de manière appliquée le pourtour de la blessure, déversant un flot de bave sur le mollet de la petite. Et brusquement, sans doute sous l'effet calmant de cette langue rugueuse et familière, les hurlements cessèrent. Mais l'œil vagabondait toujours, et la vacance du regard devenait de plus en plus angoissante. C'est alors qu'Agathe décida de prendre les choses en main.
« Maintenant, il y en a marre. Tu vas t'arrêter immédiatement, Louchette. Ton genou, ce n'est qu'une écorchure. Arrête ton cirque. Dis à ton œil de revenir. Il n'y a pas d'araignée, tu le sais bien. Ton tourniquet est cassé, mais je vais te montrer le plus beau joujou du monde. »
L'enfant repoussa la mèche qui masquait son œil droit et, comme par enchantement, l'iris de son œil gauche revint à sa place. Elle se laissa docilement entraîner à la salle de bain et observa, avec beaucoup d'intérêt, l'eau du bidet où maman lavait sa jambe. Un liquide brunâtre et visqueux où se mélangeaient, en quantités égales, le sang et le sable de l'allée. Puis elle revint en dessous, exhiber fièrement le pansement improvisé par maman. On put alors déguster tranquillement ce qui restait de forêt noire. Car Agathe avait profité de la panique ambiante pour faire de nombreuses incursions à la table du goûter.
« Et le plus beau joujou du monde ?»
demanda la petite blessée.
« Regarde !»
Tout en suçotant ses doigts pleins de crème, sa sœur lui tendait le cadeau de maman. La petite s'empara du cylindre et y colla son œil droit. C'était encore plus beau que le tourniquet et les visions qu'il avait entraînées. Il suffisait de tourner légèrement le poignet pour que ruissellent les pierreries. Des vertes, des bleues, des roses, des volutes dorées se muaient en colliers. Des pyramides de perles s'écroulaient, dont renaissaient des arabesques, des diadèmes et des chapeaux d'enchanteurs. Toute une féerie défilait dans le petit trou de l'objet magique. Mu par une idée étrange, le père prit le kaléidoscope et le posa contre l'œil gauche de la fillette. Mais celle-ci repoussa sa main avec détermination et reprit sa contemplation béate. Plus tard, il mit sa main sur le visage de la petite et couvrit son œil droit. « Que vois-tu, Lucie ? » demanda-t-il. La réponse se planta dans son cœur comme un coup de poignard. « Je vois la nuit. » Chapitre 2. Ce fut une expédition. Descendre de la colline à pied jusqu'à l'arrêt du tram, s'y engouffrer en poussant les nervis agrippés au marchepied, se faufiler jusqu'à une place libre, supporter les mélanges d'effluves où les haleines à l'ail se mêlaient à la sueur des provençales. Maman avait pesté contre les couffins qui griffaient ses jambes nues. La petite, au contraire, s'était beaucoup amusée et avait particulièrement apprécié le contrôleur. Vêtu d'un uniforme bleu ardoise, coiffé d'une casquette galonnée, il portait, comme autre signe distinctif, un appareil étrange ceinturé au-dessus d'une bedaine proéminente. Il prenait délicatement les tickets qu'on lui présentait, les insérait dans les fentes de l'appareil, puis tournait majestueusement une petite manivelle plantée sur le côté de la machine. Chaque voyageur reprenait alors son bien, marqué de signes cabalistiques.
« Ils sont oblitérés et ne pourront plus servir, » expliqua maman à Lucie,
en regardant sévèrement les jeunes garçons qui se gardaient bien de payer leur écho et filaient sur le trottoir dès que l'employé s'approchait d'eux.
« Ils resquillent,
dit-elle en glissant les petits bouts de carton entre sa bague et son annulaire pour ne pas les perdre. Le reste de l'après-midi resta marqué dans la mémoire de la petite de manière beaucoup plus dramatique. Il y avait encore une trotte entre l'arrêt où le tram les avait laissés et le cabinet de l'oculiste. La touffeur de l'air était intense, mais une fois la porte cochère passée, une onde de fraîcheur les accueillit comme une menace encore imprécise. Maman, qui se plaignait de la canicule 2 minutes auparavant, frissonna, et ses bras se hérissèrent d'une multitude de petits granules. La salle d'attente sentait le renfermer. Maman se plongea dans une revue, tandis que la petite expérimentait le bruit que faisaient ses sandales quand elle les cognait contre un tabouret en fer.
« Arrête !» dit maman. « J'ai des fourmis dans les pieds !» répliqua-t-elle, ignorant les signaux désapprobateurs que lui lançait un vieux monsieur à lunettes épaisses.
Le cabinet où l'oculiste les fit entrer avait dû servir autrefois de salle de réception. Un miroir encadré de moulures en stuc doré surplombait la cheminée derrière le siège du patient, conférant à l'ensemble un caractère plus cérémonieux que médical. Maman prit place sur une chaise à bascule, dans l'unique ray de lumière qui filtrait au travers des volets presque clos. Décidément, tous les hommes rencontrés cet après-midi portaient de curieux prolongements corporels. Bedaine bardée d'une machine à malice pour le contrôleur du tram, tête casquée d'une lampe chercheuse pour l'oculiste. Mais la petite allait au-devant de découvertes et de saillies encore plus étranges. L'homme en blouse blanche l'avait juchée sur un fauteuil en moleskine. Ainsi perchée, elle balançait ses petites jambes dans l'espace, loin du sol. L'oculiste ajusta sa lumière sur son front et s'assit en face d'elle. Mais l'enfant bougeait tellement qu'il cala les genoux de la petite entre les siens, en écartant les pans de sa blouse. Puis il commença son examen. Éblouie par la lampe, Lucie sentit les fourmis attaquer ses petits pieds de plus belle. Dans leur agitation, les sandales se détachèrent et glissèrent au sol, tandis que son pied nu découvrait, entre les genoux de son bourreau, un objet inattendu. Curieuse, elle poursuivit son investigation du bout de ses orteils qui rencontrèrent une masse chaude et douce. Elle était semblable au pain perdu que lui préparait bonne maman pour le goûter. L'oculiste avait éteint sa lampe, relevé la tête et contemplait pensivement le miroir derrière elle. Le visage de maman s'y profilait comme une médaille. Ses cheveux étaient domestiqués par une succession de crans ondulés, tels une toiture de zinc, ainsi que la mode le dictait aux femmes de l'époque. Mais la chaleur avait quelque peu dérangé leur ordonnance et des mèches humides frisotaient sur son front. La robe en lin bleu pâle dégageait son cou et une ombre plus foncée s'étirait sous ses aisselles, soulignant la peau un peu trop charnue du bras. Elle avait posé ses 2 mains sur le bas de son ventre et se balançait paresseusement sur la chaise cannée. Comme si sa fille lui avait communiqué son impatience, ses pieds faisaient des ronds dans l'air, éparpillant les particules de poussière qui dansaient dans la frange de soleil. L'oculiste soupira fortement et plongea à nouveau sa lampe dans le fond de l'œil de sa patiente. Plus il prolongeait l'examen, plus la fillette trouvait divertissant de tâter ses boules tièdes et tendres. On aurait dit de la pâte à modeler, comme lorsqu'Agathe et elle s'amusaient à pétrir de longs rouleaux de glaise entre leurs paumes. Mais là, entre ses chevilles, durcissait un épais bâtonnet, tandis que l'oculiste émettait une plainte violente et repoussait sa tête en arrière, les yeux rivés dans la glace dorée. « Tiens, se dit la petite, il a arrosé ses pains perdus de crème, comme bonne maman. » Elle ne put jamais se souvenir des instants qui suivirent ce constat étonné. Une fois dans la rue, maman ne voulut pas reprendre le tram, prétendant que marcher leur ferait du bien. La nouvelle qu'elle venait d'entendre de la bouche de l'oculiste cheminait dans sa tête, et elle en oublia d'interroger Lucie sur l'étrange laitance qui séchait sur ses chevilles.
Le lendemain, Agathe divulgua à sa sœur la conversation qu'elle avait surprise entre le père et maman, derrière la porte de leur chambre à coucher.
Chapitre 3. Sous le cèdre était le lieu de prédilection d'Agathe. Le père avait suspendu un trapèze et des anneaux à une longue branche et répandu une épaisse couche de sable sous les agrès pour amortir les chutes éventuelles. L'ombre du vieil arbre s'étendait loin sur la terrasse recouverte de gravier. La flaque sombre s'allongeait au fil des heures, jusqu'à recouvrir les plates-bandes où maman faisait pousser zinnia et soucis. L'arbre avait donné son nom à la propriété, beau cèdre. Agathe passait son temps à enfiler ses jambes dans les anneaux de fer et à se suspendre la tête en bas, comme une chauve-souris. « Tu en as encore pour longtemps à faire le cochon pendu ?»
lui demanda Lucie, qui, malgré son envie, n'arrivait pas à grimper toute seule jusqu'au trapèze et se tenait appuyée contre le tronc du cèdre.
« L'oculiste a dit que tu n'avais qu'un œil !» asséna Agathe à la petite, sans répondre à la question et la tête toujours à l'envers. Ses cheveux, dont le bout caressait le sable, pendaient comme un tapis de prière à longues franges dorées.
« C'est pas vrai, tu mens !»
pleurnicha Lucie en vérifiant avec les doigts qu'elle avait bien deux yeux de part et d'autre de son nez. Agathe sauta sur le sol et y ajouta essoufflée.
« Et puis, tu louches, ton œil il est pas droit, il va dans tous les sens. Et tu peux pas voir les montagnes et les collines. D'ailleurs, tu renverses toujours ton bol de lait. C'est même le père qui l'a dit. »
Ayant bien versé le poison dans le cœur de sa sœur, Agathe remonta dans l'arbre et s'assit à califourchon sur la grosse branche, en arguant la petite. Celle-ci répétait de plus en plus faiblement
« Tu mens, tu mens !»
Et les larmes ruisselaient dans son cou, tandis qu'elle frottait inlassablement ses deux yeux, maculant ses joues de traînées sales. Les collines, elle les voyait très bien, blanches, épiquetées de pins parasols au-dessus de la maison.
Les montagnes,
elle n'en avait jamais vu. Elle les imaginait bleutées et scintillantes comme dans le livre de Papa Noël. Quant au lait, elle n'était pas la seule à répandre le contenu de sa tasse sur la nappe. Bonne maman, dont les mains tremblaient un peu, renversait souvent son thé au grand agacement de maman.
« Moi, je vois des araignées, et des serpents brillants, et des chapeaux de fées derrière mes yeux !»
dit-elle en s'allongeant le long du tronc et en faisant rouler son œil gauche sous son arcade sourcilière. Agathe abandonna son perchoir et se coula près d'elle.
« Comment vois-tu au pays de derrière ton œil? Comment elles sont, tes toiles d'araignées ? »
questionna-t-elle, fascinée par la mer de nuages qui s'étalait de manière uniforme dans l'œil de Lucie. Seule la petite corne noire rappelait l'existence de l'iris en goguette. Elle entoura d'un bras protecteur les épaules de sa sœur et se mit à l'embrasser, doucement, tout autour de l'œil embrumé, sur les sourcils, le haut des joues, l'aile du nez et ce qu'elle pouvait attraper de paupières.
Tu me diras tout ce que tu vois, et je te protégerai. Je t'apprendrai les mots de l'oculiste. Il a dit que tu avais un trabisme divergent. C'est parce que tu louches. L'autre mot, je l'ai oublié. C'est comme une antilope. Maintenant, dis à ton œil de revenir. Sinon, maman va de nouveau se fâcher. Je ne lui dirai rien, promis.
Mais comment Lucie aurait-elle trouvé, à son âge, les mots pour décrire les labyrinthes dans lesquels elle s'enfonçait peu à peu, et la grotte peuplée d'objets mystérieux aux formes allongées ou légèrement renflées. Et que représentait cette étrange toile qui envoilait l'entrée et en tapissait la voûte? Son œil prisonnier butait invariablement contre cette dentelle impénétrable, comme la mouche se prend dans les mailles du filet tendu par l'araignée. Comment aurait-elle pu exprimer qu'elle découvrait au même instant, cachée dans cette caverne inconnue, le mélange d'étonnants de sentiments mêlés, jalousie et passion, que suscitait en elle la tendresse d'Agathe? Ainsi qu'elle l'avait déjà fait le jour de son anniversaire, elle obéit à sa sœur et son visage, à nouveau habité, reprit son aspect habituel. Chapitre 4. Maman avait pleuré toute la nuit. Au petit déjeuner, elle prit une décision dont la première conséquence
fut la transformation de la maison en palais de la Belle au bois dormant.
Elle débarrasserait tous les tiroirs, les étagères et les placards des objets pointus qu'ils contenaient. À l'instar de la princesse à qui la fée Carabosse avait annoncé à sa naissance qu'elle se piquerait et mourrait, Lucie devait être protégée. Couteaux, ciseaux, aiguilles, tous objets pointus susceptibles de blesser son œil valide, devaient être bannis de son horizon. Le père dut abandonner son coupe-papier en ébène, bien commode pour ouvrir son courrier. Dorénavant, il pestait en faufilant maladroitement son doigt épais dans le haut des enveloppes. Agathe livra, avec regret, la paire de ciseaux qu'elle utilisait pour découper des ribambelles. Maman cacha son nécessaire à ongles au plus haut de la grande armoire où elle rangeait le linge de la maison. Bonne maman effectua, de bonne grâce, de nombreux rangements dans sa chambre. Il y avait tellement de trésors dans chaque recoin. Agathe et elle se délectèrent tout l'après-midi à collecter des épingles à chapeaux, des broches ornées de camées et de perles, des boucles de ceinture, des nécessaires à couture, dont chaque aiguille à broder, à repriser, à festonner, représentait un danger potentiel pour le bon œil de Lucie. Le tout fut placé dans une boîte à chaussures qu'on hissa sur l'étagère, à côté des limes à ongles. Mais la tâche devint impossible quand on aborda la cuisine. Paulette, en effet, refusa absolument d'obtempérer.
« Comment que je fais pour vider mon poulet, peler mes légumes, découper mon rôti, si vous m'enlevez tous mes couteaux ?»
demanda-t-elle avec son bon sens habituel. Maman ne jugea pas utile de lui dire que ni le poulet, ni les légumes, ni le rôti, ni, a fortiori, les couteaux, ne lui appartenaient, et qu'elle trouvait la répétition de tous ces possessifs déplacés. Fatiguée par la campagne d'éradication qu'elle menait depuis l'aube, elle s'affala dans une chaise longue et consulta bonne maman. Lucie était accroupie aux pieds de sa grand-mère et raclait furieusement la cicatrice de son genou avec un petit morceau de bois. Une auréole rosée entourait la croûte brune qui s'était formée au centre.
« Ça gratte » répondit-elle à bonne maman qui annonçait qu'elle garderait une marque toute sa vie si elle continuait à arracher, jour après jour, le reliquat de croûte.
« Paulette est insupportable !» se plaignit d'une voix lasse maman qui se sentait rattrapée par sa nuit sans sommeil.
« Ne sois pas stupide !» rétorqua bonne maman. « On ne peut pas cuisiner sans couteau. D'ailleurs,
« regarde.
La petite pourrait aussi bien se crever l'œil avec n'importe quel bout de bois trouvé dans le jardin. Si tu veux éviter les ustensiles coupants, le mieux est de lui interdire l'entrée de la cuisine. De toute façon, Paulette n'est pas une fréquentation pour elle. Elle parle mal et elle a de mauvaises manières, » conclut-elle sans aucune indulgence pour la petite bonne. Et l'affaire en resta là. Depuis ce jour fatidique, la petite perdit l'habitude de se percher sur un tabouret à l'intérieur de la pièce interdite. Désormais, elle se postait devant la fenêtre de la cuisine pour mendier un biscuit ou écouter chanter Paulette.
Chapitre 5.
Par où avait-il bien pu pénétrer dans la propriété? Les parents se posèrent longtemps la question, mais seules les deux fillettes connaissaient la réponse. Pour entrer dans Beaucèdre, il suffisait de pousser le petit portail en contrebas de la maison. Le battant faisait vibrer une clochette qui annonçait une visite ou l'arrivée des habitants de la maison. Un peu plus loin, le grand portail n'était ouvert que lorsqu'une voiture était attendue et remontait la grande allée. Mais, pendant toutes les années de guerre, il eut largement le temps de rouiller. Papa avait dissimulé son Hotchkiss. Bonne maman, imitée par les petites, prononçait « Hotchkiss » sous un ballot de paille, pour éviter que les Allemands ne le réquisitionnent. Plus aucun véhicule ne franchit alors le grand portail jusqu'à la libération. Le petit garçonnet n'était entré ni par le petit ni par le grand portail, et aucune sonnette n'avait tinté. Il surgit, comme un lutin tombé du ciel, devant Lucie qui était en train de jouer dans son coin de jardin préféré, pompeusement nommé le rond-point des acanthes. Les plantes au feuillage vert foncé, lustrées comme du satin, avaient envahi l'endroit et personne n'y mettait plus les pieds, sauf elle. Elle adorait parler aux grandes fleurs dressées comme une forêt de cierges. Elle les appelait ses amies. Aucune d'entre elles n'avait l'idée de l'appeler par ce surnom stupide inventé par Agathe. Louchette. Elles étaient toutes des princesses, et elles les emmenaient au bal, comme dans l'histoire de Cendrillon. Lorsque les fleurs venaient de s'épanouir, elle arrachait une des grappes un pédoncule charnu, dont le pétale pâle et replié semblait une minuscule pantoufle, et elle l'enfilait au bout de son petit doigt devant les yeux de son prince émerveillé. Alertée par un léger reniflement, elle leva les yeux et le vit campé devant elle. Mais le prince avait troqué son couvre-chef à plumes, garni d'un cabochon de diamants, contre un vulgaire béret, et ses orteils dépassaient d'un trou découpé dans une galoche, sans doute trop étriqué. Pétrifiée, elle eut l'impression que son cœur s'arrêtait et elle ne répondit pas à la question du garçonnet. « Comment tu t'appelles ?» Agathe, qui cherchait sa sœur et était arrivée sans bruit, répondit à sa place. « Moi, c'est Agathe, et elle, c'est Louchette, parce que son œil disait à l'autre. Mais tu peux aussi l'appeler la petite. Par où es-tu entrée ?»«
Par là-bas, » répondit-il évasivement, en omettant d'avouer qu'il avait soigneusement enlevé, un à un, les bouts de verre qui hérissaient le mur de la propriété comme les herses d'un château fort. Ensuite, comme Arsène Lupin, il avait sauté dans le parc. Beau Cèdre était perché sur une des collines qui dominait le port. La villa était ceinturée par une ruelle en cul-de-sac qu'elle dominait de ses murs aveugles et coiffés de tessons colorés. De l'autre côté de la ruelle s'alignait une rangée de modestes maisonnettes, comme les fermes d'un village moyenâgeux blotti au pied de sa forteresse. C'était dans l'une d'entre elles, tout au bout de l'impasse, qu'habitait le petit garçon.
« Et comment s'appelle ce jeune homme ?»
demanda le père pendant le déjeuner, sur un ton un peu cérémonieux qu'il adoptait parfois avec ses filles, et comme si elles avaient déjà atteint l'âge de se marier. Plus prosaïquement, maman vérifiait qu'aucun couteau n'avait été placé par inadvertance auprès de l'assiette de Lucie.
« Arsène Lupin !» répondit cette dernière, la bouche pleine.
« Mais non, on l'appelle Lino. Son père est italien. Ses grands-parents l'ont recueilli parce que sa mère est morte. »
dit Agathe en prenant un air compassé pour livrer la dernière information. La mort était pour elle une notion abstraite, mais comme les grandes personnes arboraient toujours un visage catastrophé en parlant, elle pensait qu'il était de bon ton d'en faire autant.
« Pauvre enfant !» dit le père, avec la voix qu'il aurait prise s'il avait été en train de leur lire « Les malheurs de Sophie » ou « L'auberge de l'ange gardien ».«
Dites-lui qu'il peut venir jouer avec vous dans le jardin, mais qu'il passe par le petit portail !»
rajouta maman.
« Je crois que j'ai déjà rencontré sa grand-mère chez la crémière en faisant la queue pour le lait des petites. »
Mais Lino continua à escalader le mur. Il enlevait les tessons, les rangeait soigneusement à l'intérieur de son béret, puis les remettait dans leur fente après chaque passage. Et, à l'instar des habitants de Beau Cèdre qui avaient chacun leur coin favori, bonne maman en dessous, Agathe sous le cèdre, Lucie le rond-point des acanthes, il choisit la mare et en fit son territoire. Il en avait découvert les bienfaits dès le premier jour. Il soulageait son pied à l'étroit dans sa chaussure en le trempant dans l'eau stagnante qui verdissait sous les ombrages. La mare était habitée par une multitude de têtards qui se pourchassaient inlassablement. Les grenouilles sautaient dans les jambes de Lino, qui ne se lassait pas de les attraper et de leur faire subir des sévices et des mutilations plus atroces les unes que les autres. Il les mettait en rang, leur inventait des courses épuisantes, testait leurs réflexes après amputation et observait leur agonie sans l'ombre d'un remords. Puis, trempé et gluant de vase, il s'écroulait auprès des filles et son rire communicatif emplissait la tête de Lucie comme un carillon de fête. Un jour, alors qu'Agathe, perchée sur la fourche du cèdre, était plongée dans le livre d'Arsène Lupin qu'il lui avait prêté, la petite s'enhardit à poser des questions. « Lino, ce n'est pas ton nom. Pour de vrai, tu t'appelles Arsène Lupin, comme dans l'histoire qu'elle est en train de lire, dit. » « Mais non, bêtasse. Je m'appelle Raphaël. Raphaëlino. Lino, c'est le diminutif. Ici, on dit Raphaël, » expliqua-t-il en embrassant d'un geste circulaire le jardin et tout ce qui l'entourait. « Raphaël, » répéta-t-elle rêveuse, et elle décida de garder pour elle, en secret, ce prénom crémeux comme un caramel mou. Il ajouta, « Tu sais, ton nom en italien, c'est Lucia, et ça veut dire « lumière ». Puis il bondit sur ses pieds et suggéra dans l'espoir qu'Agathe les rejoindrait, « Viens, on va faire une partie de billes. » Dans le sable, sous le cèdre, ils creusèrent des galeries, des ponts, des fossés, façonnèrent un monticule autour duquel s'enroula un ultime sillon ponctué de petits replats. Pour égayer le parcours, la petite planta des tiges d'acanthe donnant à l'ensemble un faux air de golf miniature. Agathe, immobile sur sa branche, semblait se désintéresser complètement de leur entreprise. Elle se mit même à persifler. « Vous vous croyez à la plage, à faire des châteaux de sable ?» Mais dès qu'elle vit que Lino sortit de sa poche un gros sac de billes, elle courut chercher ses propres trésors. Le père lui offrait une agate chaque fois qu'elle revenait de l'école avec 10 bons points. Au sommet de la colline de sable, elle plaça la plus belle. Le prix à gagner pour celui dont la bille arriverait en haut, sans avoir dévié des rigoles creusées sur le parcours imposé. La partie s'engagea rapidement. Habile, Lino faisait avancer ses billes en leur donnant de légères chiquenaudes. Mais Agathe se débrouillait toujours pour le pousser légèrement au moment où, le calot ayant atteint le dernier replat, Lino était proche de la victoire. Il perdait alors l'équilibre et culbutait sur la fillette, laissant ses mains s'attarder sur la petite culotte blanche. Lucie avait essayé de faire avancer les 3 habits de terre que lui avait généreusement prêté Lino. Peine perdue. Elle visait tellement mal qu'à chaque essai, l'habit tressautait hors du tracé et allait se perdre loin du but. Quand Lino gagna le trophée et qu'Agathe empocha toutes les autres billes mises en jeu, elle éclata en sanglots. Utilisant une arme déjà bien roudée, elle ordonna à sa prunelle de déserter son visage. Oubliant ses facéties, le garçonnet s'agenouilla près d'elle, affolé. « T'inquiète pas, » dit Agathe. « Elle est partie au pays de derrière ses yeux. Elle en revient toujours. » Et elle lui raconta la séance chez l'oculiste, telle qu'elle la tenait de son écoute aux portes, expliqua, à sa manière, l'antilopie de sa sœur et le trabisme qui en découlait, sans oublier la campagne de maman pour débarrasser Beaucèdre de tous les objets pointus et piquants qui auraient pu rendre sa sœur définitivement aveugle. Lorsqu'on lui demandait plus tard comment était née sa vocation de chercheur en ophtalmologie, Raphaël se gardait bien d'avouer qu'elle était née cet après-midi-là, après la partie de billes. Cela eût été, compte tenu de toutes les zones d'ombre qui recouvraient sa vie privée, beaucoup trop compromettant. Avant de se relever, le petit garçon resta silencieux un long moment, sans quitter du regard le petit croissant d'iris noir qui, comme un frêle esquif en train de sombrer à l'horizon, semblait lui envoyer un signal désespéré. Puis, sous le regard courroucé d'Agathe, il ouvrit la main de Lucie et y posa, délicatement, le joyau qu'il venait d'empocher. Après son départ, la petite se réfugia auprès de ses amis à Kant et leur montra son nouveau trésor, la boule cristalline aux reflets noisettes et dorés, moirée de grands éclairs émeraudes, réplique parfaite des yeux de sa sœur aînée. Les grappes subulées allumèrent leurs petits cierges verts et blancs en signe d'admiration, tandis que l'enfant, assise dans le parterre de feuilles luisantes, faisait tournoyer l'agate dans le soleil éblouissant.